que tu peux me mettre du son? Petit bazar, yo.
Bazar, Radio Cali.
Ou ce genre de choses. Le petit bazar. Le petit bazar.
Et le magnétisme.
Petit
Coucou.
Bazar, mais gros bordel.
Yo, bonjour à tous. C'est la 76e du petit bazar aujourd'hui. Alors que le studio est en pleine ébullition, puisque on refait la peinture aujourd'hui, voilà. Enfin, on. bon, vous pouvez parler aussi, les gars, hein, si vous voulez. Hein, je suis pas tout seul. Hein.
Attends, Nico, je me fous à poil.
Donc Max se déshabille en studio. Nico est en train de s'installer tranquillement en régie. Comment ça va, les gars?
Bah très bien.
Ça va pas mal, ouais.
Bon bah tant mieux. Oui, alors aujourd'hui, je vais présenter le thème du coup, puisque je suis tout seul au micro.
Comment tu veux aller démarrer la nouveauté?
T'as une petite nouveauté peut-être avant?
Oui. Ah, on annonce nouveauté d'abord et ensuite on annonce le thème du coup. Ok, ça marche. Bon bah nouveauté, c'est les filles de Savages. Alors Savages, c'est un quartet punk, post-punk, originaire d'Angleterre, de Londres, avec une chanteuse néanmoins d'origine française qui chante en anglais. Si vous suivez, tant mieux. Elles viennent donc de sortir leur second album, c'était la semaine dernière, il s'appelle Adore Life, donc enfin c'était même pas la semaine dernière, c'était vendredi en fait. Adorons la
vendredi,
vie.
Vendredi, tu veux dire hier?
C'est-à-dire hier, tout à fait.
Voilà. Mais en vrai, il était dispo sur Internet depuis plus longtemps, donc plein de gens l'avaient déjà écouté.
Oui, mais bon, la convention est quand même de donner la date de sortie de l'album.
Oui, mais donc, il était dispo légalement, je précise. Oui. J'ai pas triché, blablabla. Bla, bla.
C'est vrai.
Mais blablabla.
parce que pourquoi pas, après tout. Est-ce que le petit bazar, c'est pas un peu une heure de blablabla au fond, quoi? Donc revenons à nos moutons, Savages.
Ça ne rejoint pas, genre.
Oh, enfin bon. Ouais, bon, bref. c'était un jeu de mots maladroit, excusez-moi pour. Et donc, du coup, oui. Quelle chanson a passé déjà? Ah oui, I Need Something New. Alors, ça tombe bien, c'est la nouveauté. J'ai besoin de quelque chose de nouveau. Alors là, franchement, putain, vous m'aidez pas du tout pour ce début d'émission. Vraiment, je vous emmerde tous les deux, quoi.
T'expliquerai pendant la
chanson. Il y en a un qui grignote, l'autre qui commence à se prendre un fou rire, on sait pas pourquoi. Enfin, vraiment. Bon, bref.
Oui, I Need Something New.
Voilà. J'ai besoin de quelque chose de nouveau, donc ça tombe bien pour la nouveauté. Alors, en fait, I Need Something New, c'était une chanson que, personnellement, moi, j'avais découvert, déjà l'an dernier en les ayant vus en concert, parce que ça faisait un petit moment qu'elles tournaient avec leurs chansons. Faut savoir que leur premier album était sorti quand même il y a 3 ans, donc elles ont eu le temps d'écrire tranquillement, elles ont enregistré une partie de leur album à Paris, et donc certaines de ces chansons sont déjà connues des fans de Savages dans leur version live. Et si la version studio est peut-être un tout petit peu plus, on va dire, domptée, parce que c'est un album dans l'ensemble un peu plus calme et un peu plus intériorisé que le premier, la version live reste furieuse. Et d'ailleurs on en profite avec Max pour vous dire que elle
22
passe,
février.
Voilà, 22 ou non 28 ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus.
Pas le 22.
Je sais plus.
Il me semble que c'est le 22.
Ouais, enfin c'est fin février, quoi.
À l'épicerie moderne.
Ça c'est immanquable. Ça veut dire un concert. Donc voilà. Et pour l'instant, on s'écoute la version studio d'un album qui, s'il n'atteint pas pour moi les sommets du premier, est quand même un second album super solide. Ça s'appelle Adore Life et donc la chanson s'appelle I Need Something New.
I need something new in my ear. Something you could say, perhaps. All the words coming out of your mouth wouldn't be something I've heard before. I need something new. I need something new. I need something new.
Thank you. Imaginez ce crescendo démentiel dans un mois à l'épicerie moderne, ça va envoyer grave. C'était I Need Something New de Savages, extrait de leur second album Adore Life, qui est sorti donc vendredi, ou pour Max, qui l'écoutait en toute légalité, il y a environ deux mois.
Non, c'est pas vrai.
Je rigole.
Cette semaine, ça va.
Oui, alors, bon, bah, Max, on te laisse peut-être le soin de présenter le thème du jour, qui est en rapport avec une actualité à Lyon.
Eh bah oui, en ce moment à Lyon, donc au musée des miniatures dans le Vieux Lyon, se trouve une exposition consacrée au réalisateur Wes Anderson, entre autres, hein, donc le musée en lui-même garde ses collections, notamment la Reine Alien. Si vous voulez aller voir la Reine Alien, elle est classe
comme musée en vrai.
Moi je le découvrirai après l'émission, parce que je vais faire l'expo du coup après. Et du coup, il y a sur un étage du musée une expo consacrée à Wes Anderson, donc un cinéaste indépendant américain assez réputé pour son sens de la vignette ou de la petite cellule. Et du coup, le côté maison de poupée de son cinéma a souvent été souligné. Donc ça va très bien avec le côté
de la
miniature.
Petite cellule.
Oui, bah si tu regardes ses films, tu comprendras la
cellulite.
Cellule en fait, c'est il filme tout le temps dans des cadres hyper symétriques, des personnages dans une pièce ou dans une chambre, mais assez confinés, donc une cellule. littéralement.
Ah, dans ce sens-là.
Voilà.
Non, mais désolé, le biologiste en moi.
Ah oui, mais je n'ai pas.
Mais Xavier Bichon n'avait-il pas.
Oui, le cinéaste des protozoaires et des... n'importe quoi, sérieux. Bon. Donc, bref, il y a une expo Wes Anderson. Je suis un adorateur de Wes Anderson. Et comme il y a deux semaines, ces petits filous de Julien et Nicolas ont fait une émission sur Tarantino sans moi. Et que j'étais un petit peu dégoûté. Et ben, je leur ai suggéré de faire un thème Wes Anderson aujourd'hui. Donc, ils ont dit oui. Et puis voilà.
Bah oui, mais on fait en plus, enfin on aime bien. Ouais,
donc le concept aujourd'hui, ça va être sensiblement le même que pour Tarantino. On va passer des musiques des films de Wes Anderson.
À la différence près que
Wes Anderson étant un gros maniaque, on va donc faire comme lui. Il est passé dans l'ordre chronologique de ses films.
Ouais. Il aurait pas été content sinon.
Voilà. Et donc on commence tout de suite avec une chanson présente sur la bande son du film Bottle Rocket. Donc Bottle Rocket, le premier long métrage de Wes Anderson, sorti en 96, qui est l'adaptation en long métrage d'un court métrage du même nom, qui était sorti 2 ans plus tôt, un film de 13 minutes en noir et blanc. Les acteurs, les personnages, l'histoire sont les mêmes, c'est juste qu'il a pris plus de temps pour le faire et plus d'argent. Les acteurs principaux sont les frères Wilson, qui sont très proches de Wes Anderson, donc Luke, Owen et Andrew. La bande-son, il y a plein de trucs super cool, comme toujours chez Wes Anderson. Vous allez découvrir tout ça pendant l'émission. Julien en parlera un peu plus du compositeur attitré à l'époque de Wes Anderson, il s'y connaît mieux que moi pour ça. J'ai choisi une chanson du groupe Love qui n'est pas sur la bande son officielle mais qui figure dans le film. La chanson s'appelle Seven and Seven Is. C'est un single extrait du deuxième album de Love sorti en 1966. L'album c'est Da Capo et donc la chanson est considérée comme un des morceaux qui ont préfiguré le punk et le heavy metal. On s'écoute ça tout de suite. Et c'était donc les Américains de Love avec Seven and Seven Is, donc un extrait de leur deuxième album sorti en 66. En général, on connaît plutôt de Love leur album suivant sorti en 67 qui s'appelle Forever Changes, qui est un des chefs-d'œuvre de la pop baroque et de la pop psychédélique américaine. Là, on voit qu'avant, ils faisaient quand même un rock un peu plus sombre, un peu plus violent, plus proche du blues rock.
Ah non, non, non.
Et Julien, très beau.
Non, pardon. En fait, juste, on va pas passer le vinyle juste après. C'est sur la clé. J'ai confondu les deux films. En
d'accord.
Fait. Pardon.
Julien, une illumination de.
Excuse-moi, Max, mais c'est juste pour pas qu'on démarre.
Tu quoi, t'avais calé Nico à la place de Divo?
Non, en fait, j'ai calé Divo, mais Divo, c'est la vie aquatique et c'est pas franchement.
Voilà, c'est tout. C'est le insight du petit bazar.
Excusez-moi, mais c'est juste pour pas qu'on fasse d'erreur.
Et pour revenir au thème, tu peux rappeler l'année du film
96, Bottle Rocket. C'est le seul que j'ai pas vu de Wes Anderson d'ailleurs.
Ouais, non plus. ouais, j'ai pas vu.
Il est en DVD chez moi si vous voulez le regarder.
Ouais. Bon, si vous voulez, ça m'intéresse après séance spéciale.
L'after, il est au musée des miniatures parce que je vais faire l'expo. Ouais. Mais donc voilà, enchaîne sur Rushmore.
Oui, alors
mais,
oui, donc
on peut peut-être que les auditeurs peuvent envoyer un petit mail à lepetitbazar@hotmail.com s'ils veulent que tu leur prêtes le DVD. Ouais.
On sent qu'il est pas très chaud. Ouais, alors donc maintenant on va parler logiquement du deuxième film et donc une fois que maintenant que j'ai corrigé mon erreur, on peut enchaîner. Oui, alors le deuxième film de Wes Anderson, c'était donc Rushmore. Alors même si Bottle Rocket est donc son premier, j'imagine, je sais pas Max, t'es d'accord, c'est franchement c'était celui qui l'a fait quand même connaître un petit
peu. Ouais, en fait Bottle Rocket a été un succès critique mais a pas du tout marché au box office. Et c'est grâce à son amitié en fait avec les frères Wilson, il avait rencontré donc Owen à la fac de philo. Ils étaient colocataires en fait et ils sont devenus meilleurs amis. Que comme ils étaient un peu connus, la famille Wilson est un peu,
il revient dans quasiment tous ses films.
Et voilà, un peu riche, ils ont financé en fait son premier film et ils ont financé aussi Rushmore, et Rushmore lui par contre a beaucoup mieux marché.
Et d'ailleurs un autre acteur qu'on retrouve régulièrement dans les films de Wes Anderson, c'est Bill Murray. Et Jason Schwartzman aussi d'ailleurs, qui sont les deux héros finalement de Rushmore. Alors comme pour tous les films de Wes Anderson, c'est un peu difficile de donner un synopsis un peu précis.
C'est impossible à raconter.
Voilà, ouais. Mais en bref, bon, le point de départ de Rushmore, si vous ne l'avez pas vu, c'est donc un étudiant assez brillant mais paradoxalement très très mauvais en cours parce qu'il est un petit peu anticonformiste, qui est dans un lycée privé à cause de ses parents et qui donc va rencontrer Bill Murray, qui est une espèce de d'homme d'affaires cynique qui est en train d'échouer dans tout ce qu'il entreprend plus ou moins, et ils vont lier en fait une espèce d'amitié matinée d'admiration avec Jason Schwartzman qui va inspirer Bill Murray qui va essayer en fait de d'aider Jason Schwartzman dans ses conquêtes féminines.
C'est surtout un film sur des losers magnifiques.
Voilà, c'est un peu le principe.
Ouais.
Et c'est vraiment super film, c'est super touchant. Et moi, la fin du film me touche particulièrement parce qu'il y a, bon, c'est une petite scène de bal assez charmante. Et en fait, si vous voulez, la chanson qui passe à la fin pour le générique, c'est Jason Schwartzman qui dans le film la demande au DJ du bal. Et ça tombe bien parce que c'est, en fait, c'est une de mes chansons préférées par Ricochet, parce que c'est l'une de mes chansons préférées de mon père, tout simplement. C'est Oulala des Faces. Alors les Faces, c'est un groupe qui s'est formé en 69 après que, en fait, c'était avant c'était les Small Faces, donc un groupe quand même considérablement plus connu que les Faces. Et en fait, après que l'un des membres des Small Faces soit parti pour former Humble Pie en 69, les autres ont formé les Faces, avec en plus Ronnie Wood qui n'était pas encore dans les Rolling Stones,
ouais, les Stones.
Et Rod Stewart aussi qui jouait un petit peu de guitare pour eux. Alors les Faces, du coup, ils ont fait finalement 4 albums et ils ont rencontré un succès, on va dire, assez modeste comparativement à d'autres groupes mode de l'époque et aussi aux Small Faces qui étaient un peu les prédécesseurs. Mais il y a quand même un single qui tue absolument tout en 73 et qui est exceptionnellement chanté, parce que d'habitude c'est pas lui qui chante, par Ronnie Lane. Et donc le single s'appelle Oulala et c'est une magnifique petite ballade pop qui en fait relate les conseils d'un grand-père à son petit-fils concernant les femmes. Et donc ça fait un petit peu écho à la relation entre Bill Murray et Jason Schwartzman dans le film, et ça illustre une très belle scène de fin où rien du tout, parce qu'on va pas spoiler le film.
Oui, bah oui. Donc voilà. Il y a une scène très très drôle aussi de spectacle de fin d'année absolument épique.
Et donc voilà, on vous laissera découvrir le film. En tout cas, pour l'instant, une petite preview, c'est la dernière chanson du film, la magnifique Oulala des Faces.
Steal your heart.
Voilà, on vient donc de s'écouter la dernière chanson qui apparaît dans Rushmore de Wes Anderson, le deuxième film de Wes Anderson sorti en 1998. C'était donc The Faces avec Oulala, extrait de leur quatrième et éponyme album Oulala. Voilà, bah, enchaînons du coup avec le film suivant de... Alors oui, alors juste, je rappelle, Max m'a précisé hors antenne que c'était donc le premier rôle aussi de Jason Schwartzman qui ensuite est devenu un régulier de,
oui,
de Wes Anderson.
Quasiment tous les films suivants... Peut-être voilà. Tous les films suivants d'ailleurs, je sais pas.
Possible, ouais.
Parce que de temps en temps, il y en a un qui manque en fait, c'est ça le truc un peu rigolo ouais. Avec Wes Anderson. Donc 2001 maintenant, hein. Donc 2001 sort le troisième long métrage de Wes Anderson.
2001 mais 2001 c'est pas Wes Anderson. LOL.
Non mais sérieux quoi.
Non mais j'ai pensé à la même chose. Mais je me suis retenu moi.
Non parce que t'as dit 2001 du coup.
Bah, ça faisait 2001, dit genre 99.
Mais
alors,
oui,
coup, 2001,
je rigole. Oh là là.
Enfin
2001,
bref.
Même plus, on peut même plus rire.
The Royal Tenenbaums, ou en français La Famille Tenenbaum, donc qui est peut-être le premier film de Wes Anderson à vraiment poser... son dispositif vraiment de mise en scène pour lequel on le connaît. Hein, donc
en alors fait... pourquoi de, en français ils sont plus royales, ils sont juste une famille.
Parce que souvent la traduction de titre en français c'est pourri. Enfin, tu l'as jamais remarqué ça au cinéma.
Après, ça aurait, il faut quand même avouer que ça aurait peut-être fait un titre un peu étrange. Non,
en ouais, en français c'était dur.
En France, aussi. La royauté. Ouais,
les Tenenbaums royaux. Aussi.
Bon bref. Enfin bref. Donc c'était le premier film de Wes Anderson à vraiment établir le style de dispositif de mise en scène pour lequel on le connaît vraiment, puisque quasiment tout le film se passe dans une énorme maison qui est la maison de famille de la famille Tenenbaum, une espèce de manoir comme ça, un peu victorien, où on va suivre de manière assez chorale tous les personnages du film, donc c'est une énorme famille un peu... Enfin, pas qu'un peu complètement éclaté et complètement destroy, où ils sont tous dépressifs et ils font des tentatives de suicide. Ils se suicident d'ailleurs, je crois, à un moment certain. Enfin bon, bref, que des trucs. C'est pas un film très joyeux, c'est un film extrêmement ouais. Nostalgique, un petit peu déprimant, ouais, avec un humour très grinceux, très grinçant, pardon.
Par rapport à ces autres films qui sont tous un peu plus légers, celui-là,
bah, en fait,
un peu plus
moi, ce que j'aime bien quoi. Justement chez Wes Anderson, c'est que il a l'apparence de la légèreté.
Toujours
mais
un petit point de mélancolie.
Il y a toujours un truc derrière qui est assez grave, assez sérieux, assez émouvant. Alors c'est peut-être le film où ça se manifeste le plus violemment les Royal Tenenbaums, mais voilà, donc c'est une espèce de saga familiale sur plusieurs décennies à travers les années 70, 80, 90, et donc la bande son suit comme ça les différentes époques. Et il y a une scène fameuse et magnifique dans le film où la fille de la famille arrive, sort d'un bus en fait, vient se faire chercher par son frère à la gare. Et il la filme au ralenti en train de sortir du bus sur la chanson qu'on va écouter maintenant, qui est le These Days de Nico.
Bon, on a un petit
alors oui, un petit souci technique avec le vinyle, mais sinon on l'a sur clé, donc Nico, tu peux le mettre sur clé, c'est pas trop grave.
Juste, elle fait combien de en temps à peu près ?
Elle fait 3 minutes 30, je crois.
30, ouais. Donc ça doit être par là.
Mais c'était
c'est tout prêt.
Mais Julien, tu l'as viré de la clé ou quoi la chanson parce que je l'ai mise hier. Bon bah tant pis, on va s'arranger pour mettre le vinyle.
Bon, on va batailler un peu avec le vinyle.
Je vous jure que je l'ai mise à 4h du matin sur la clé. Enfin sur le Dropbox. Aïe aïe aïe. Bon, et bah je vais parler du film du coup. Donc on retrouve dans le film The Royal Tenenbaums toute la clique hein, de Wes Anderson qui commence vraiment à s'établir avec celui-là. Donc évidemment, il a été coécrit avec Owen Wilson, qui est le co-scénariste de la plupart des films de Wes Anderson. Les acteurs principaux donc sont Gene Hackman, Angelica Houston, Bill Murray, Gwyneth Paltrow, donc qui est l'actrice de la scène à laquelle je faisais référence, mais aussi Ben Stiller, Luke Wilson et Danny Glover, qui a un petit rôle du nouvel amant d'Angelica Houston. Donc c'est un film sous fond de divorce, de dépression, de retrouvailles, de séparation assez impressionnant, qui a valu à Gene Hackman le Golden Globe pour son jeu d'acteur. Et le scénario du film aussi a été nommé aux Oscars. Donc voilà, c'est quand même considéré comme un très 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 bon film. Je vais peut-être dire deux mots du personnage que joue Gwyneth Paltrow. Je crois qu'elle est écrivain dans le film, il me semble.
Julien, tu peux m'éclairer là-dessus. Elle écrit des trucs, non, Gwyneth Paltrow dans le film. C'est ça, elle est écrivain, ouais. Parce que voilà, c'est en gros, on démarre sur les gamins de la famille qui sont tous plus ou moins des génies dans leur. C'est un peu le contre-pied de Rushmore, c'est-à-dire que là, c'est pas censé être des losers, c'est censé être tous des génies. Donc, un génie des maths, un tennisman super doué, une future écrivain prometteuse. Et en fait. Et donc voilà, et donc on se rend compte dans le bilan que 30 ans après, les grands espoirs ne se sont pas réalisés, que ce sont tous devenus un peu contre leur gré des gros losers en fait. Et l'écrivain n'a jamais rien fait de formidable. Le joueur de tennis enchaîne les blessures et est dépressif et se drogue. Et le génie des matchs, je sais plus. Enfin bon, ils ont tous un destin un peu pourri et le film montre ça assez bien. Nico, on en est où là ?
Bah, on a toujours pas réussi à connecter. En fait, je sais pas ce qui se passe, mais c'est juste que ça joue pas. Je sais pas si tu veux venir jeter un coup de.
Bah, moi j'entends le souffle en fait du vinyle dans le casque si tu veux.
Ouais, mais... non, mais je sais, mais c'est juste que là, au niveau de la platine vinyle, le son vient pas quoi.
Putain.
Donc, soit on met un. On bouscule un peu l'ordre et puis. Donc, bah, on peut repartir sur Darjeeling Limited, non ? De toute façon, on avait prévu deux petits morceaux pour Darjeeling Limited, qui est donc son film suivant, pardon, de 2007. Et du coup, bah, il y a deux chansons dans ce film que je trouvais relativement intéressantes. Et puis, vu qu'on passe très rarement des chansons d'Inde. Et même on n'en a jamais passé, je pense, jusqu'à aujourd'hui. Enfin, vous me corrigez si je dis des bêtises. Du coup, je me disais que ce serait une bonne occasion de faire découvrir un peu aussi de la musique d'Inde. Et donc là, dans Darjeeling Limited, en fait, le lien, c'est juste que ça raconte trois frères qui sont un peu perdus dans la vie en général. Et un an après la mort de leur père, ils partent retrouver leur mère en Inde. Mais je pense que Maxime vous donnera quelques détails de plus sur le film plus tard. Et donc dans ce film, il y a beaucoup beaucoup de chansons indiennes, dont la chanson que je vais vous passer là, qui est de Vilayat Khan, qui s'appelle Arrival in Benares, donc arrivé à Benares. Et Vilayat Khan, qui sait, apparemment c'est un virtuose donc du sitar indien, donc l'instrument qui ressemble un peu à une guitare, on pourrait dire, enfin un instrument à cordes en tout cas. Et c'était un rival, donc au niveau musical, de Ravi Shankar, qui est hyper connu mondialement justement pour son excellence à la sitar, et qui est notamment d'ailleurs le père de Norah Jones, mais qui internationalement a joué un peu partout dans le monde et qui avait une réputation. Je sais que même moi, qui ne le connais pas spécialement, j'ai déjà entendu son nom à plusieurs reprises, quoi. Et donc la chanson Arrival in Benares de Vilayat Khan. Originalement, elle est dans le film Le Gourou de 1969, qui est un film de James Ivory. Donc on s'écoute ça tout de suite. Et en attendant, nous, on essaye de régler nos petits soucis.
Un peu de musique, là. We'll be right back.
Hop, voilà, donc c'était Bill Hyatt.
C'est la Bérésina.
Je disais, c'est Bill Hyatt. C'était donc Bill Hyatt Khan avec Arrival in Benares. Et donc là, on va vous passer un deuxième son, donc qui est dans Darjeeling Limited. Et cette fois, c'était un peu spécial là pour le, une fois, on va vous passer deux sons de ce film, mais c'est juste que, je trouvais que ça valait quand même le coup parce que c'est des sons relativement courts. Et surtout, on passe jamais de musique.
Oh, c'est cool.
De musique indienne, quoi. Et donc là, la chanson que je vais vous passer, ça vient de Satyajit Ray, qui est non seulement compositeur donc de musique, mais aussi réalisateur. Et Wes Anderson affirme lui-même que c'était une influence en général dans sa carrière cinématographique, quoi. Donc je trouvais ça intéressant de passer une musique de quelqu'un qui a eu une influence sur lui. Et en particulier là, c'est une musique qui s'appelle Charu's Theme, qui vient de son film Charulata de 1964. Donc c'est très bref, donc on se retrouve dans une petite minute.
C'était donc Satyajit Ray. Il y avait comment elle s'appelle la chanson du coup? Attends, parce qu'il y a encore, il y a encore de la musique là.
Ouais, c'est bon. C'était
un beau bordel.
Charu's Theme. Désolé.
Pas mal. Donc un extrait du film Charulata, qui est un des films les plus connus de Satyajit Ray, effectivement, qui était un cinéaste indien super influent et qui apparemment a été une influence sur notamment Darjeeling Limited de Wes Anderson et puis apparemment donc tout le corps de travail d'Anderson en général. C'est vrai que c'est un grand cinéaste dont personnellement j'avoue que j'ai jamais vu de film de lui, mais il y avait des rétrospectives assez régulièrement, donc c'est considéré comme un des plus grands cinéastes indiens, quoi.
Donc apparemment on a réglé notre
souci. On a réglé donc le souci
faut
de vinyle.
Juste régler le moment, je crois. Enfin le.
Ouais, faut peut-être recaler du coup. Mec, je sais pas s'ils sont calés les vinyles là. Mais bon,
attendez,
en tout cas,
je suis en train de m'en occuper là. Ouais. Devrait être réglé incessamment.
Et donc on va vous repasser pour ceux qui ont.
Vous êtes vraiment sur Radio Canus 102.2. Hein.
Si vous êtes toujours là, c'est que vous êtes bien courageux. Et donc pour ceux qui ont la marque, on va vous repasser dans un instant. C'était le 10 Days de Nico, extrait de Chelsea Girl. Donc il me semble que c'était le premier album solo, peut-être pas d'ailleurs, de Nico, qui est. Pour moi le meilleur, c'est vrai que c'est un super disque, assez pastoral, avec des petites ambiances comme ça, c'est sympa.
C'est bien le mot pastoral quand même.
Ouais, c'est un beau mot, non? Je trouve qu'on l'utilise pas assez. Mais c'est vrai que tu verras ce disque avec les petits accords de guitare très gentils et puis l'espèce de clarinette derrière, c'est très pastoral. J'ai entendu un grésillement qui m'annonce de belles choses peut-être.
Attention. Suspense.
Suspense.
Parti.
Ce serait donc Nico avec 10 Days, et ça serait donc de la BO de Royal Tenenbaums de Wes Anderson, son troisième film en 2001. Voilà.
Another these days.
voilà, on s'est un peu lâché après le petit dysfonctionnement de studio. On vous a passé deux vinyles à la suite. Et là, c'était donc, puisqu'on a perturbé un petit peu l'ordre chronologique de la filmographie de Wes Anderson avec Darjeeling Limited, qui est donc passé avant Royal Tenenbaums. Et
c'est le petit bazar qui reprend le dessus sur le côté maniaque. Voilà.
Désolé, Wes. Et donc là, c'était Life Aquatic, la vie aquatique, donc le film qui était après Royal Tenenbaums, c'est donc avant Darjeeling Limited, c'est-à-dire le quatrième film de Wes Anderson qui était sorti. Alors j'ai oublié l'année, en revanche 2004, je crois. Je sais plus. Ouais. 2004, un truc comme ça. Et donc oui, alors on vous a passé, là c'était Divo avec Gut Feeling, et ensuite, puisque bon, il y a un enchaînement assez brutal sur le disque, on vous a laissé la petite chanson de 40 secondes de Slop Your Mommy.
Toujours de Divo.
Oui, toujours de Divo, voilà. Et donc c'était un extrait de leur premier album Are We Not Men, We Are Divo, sorti en 1978. Alors Divo, pour aller très vite, c'est un groupe américain qui est assez indescriptible, c'est de la pop slash punk qui a toute une esthétique un peu SF, humour à froid, absurde derrière, enfin voilà quoi.
La pop slash punk.
Et donc ouais, c'est un des groupes les plus cultes en fait des années 70, qui sont assez influents, assez iconoclastes et très décalés, et ça explique sans doute leur présence dans Légalement barré, la vie aquatique, qui est donc le portrait d'un océanographe à la recherche à bord de son navire, le
Librement inspiré de Cousteau, hein.
Voilà, c'est en fait c'est mi Jacques Cousteau, mi Moby Dick, 100% n'importe quoi, et super,
c'est
et
trop
super
bien la vie aquatique.
Ah non, c'est génial, moi personnellement c'est mon préféré.
Maxime, on avait déjà passé un extrait dans l'émission sur David Bowie,
oui,
qui était une reprise
de
David Bowie par C'est où George.
Parce que C'est où George joue le narrateur du film,
c'est vrai
qui
qu'il y a
reprend
BO,
du David Bowie en acoustique en portugais.
Parce que la BO de la vie aquatique est assez ouf, enfin c'est l'une des plus ouf pour moi, et franchement moi c'est mon préféré de Wes Anderson, je pense. Et donc oui, en fait on vous a passé Divo non seulement parce que bah la chanson est géniale, mais aussi parce qu'en fait il y a toute une histoire entre Divo et Wes Anderson, et notamment entre le leader, enfin l'un des leaders de Divo qui s'appelle Mark Mothersbaugh, qui en fait a été l'un des membres principaux de Divo dans les années 80, mais qui ensuite a, tout en étant continuant à être membre de Divo, a en fait contribué, il a créé une boîte de production qui s'appelle, j'avais le nom là. Voilà, c'est Mutato Musica. Et en fait, avec cette boîte de production, il a fait la musique de plein de films, de séries télé, de même de jeux vidéo, de choses comme ça. Et en fait, il a été le compositeur plus ou moins attitré de Wes Anderson jusqu'à la vie aquatique. Et ensuite, il s'est arrêté depuis. Il a plus fait de musique pour lui. Mais en tout cas, on peut le retrouver dans plein de programmes, de films, de télé, de jeux vidéo. C'est cet homme-là, en plus de Divo. Il fait notamment la musique d'une super série qui s'appelle The Last Man on Earth. Et voilà, donc c'était Divo avec Gut Feeling, et l'un des meilleurs amis, j'imagine, de Wes Anderson, ou en tout cas un esprit égal au sien. Voilà, on enchaîne du coup avec donc le film après Darjeeling Limited.
Donc Fantastic Mr. Fox, sorti en 2009. Premier film long métrage d'animation de Wes Anderson. Donc voilà, il a fait une petite incursion dans le genre du cinéma d'animation. Sachant que donc, c'est pas du dessin animé, mais des petites marionnettes, hein, donc c'est du stop motion. Donc comme l'histoire, enfin le titre peut le suggérer, on est dans un univers fermier avec une famille de renards. C'est adapté d'un roman de Roald Dahl. Donc comme toujours avec Roald Dahl, c'est à la fois enfantin et très cruel, hein,
tu peux rappeler qu'il,
La Charlie et la Chocolaterie, voilà. Notamment, mais Roald Dahl aussi, enfin connu, même si moins connu, pour des récits policiers un peu étranges, assez gore, genre sur une femme qui mange son mari en faisant croire que c'est du mouton à son ancien collègue policier, enfin des trucs comme ça.
Donc la meilleure nouvelle de l'histoire.
c'est assez hardcore, Roald Dahl, mine de rien, et Fantastic Mr. Fox ne déroge pas à la règle, que c'est un film d'une assez grande violence pour un film d'animation familiale. Je crois qu'il y a quand même des membres arrachés dans une ou deux scènes, quoi. Une partie des marionnettes du film sont d'ailleurs exposées au musée des miniatures, si ça vous intéresse de voir un peu comment on fait un film d'animation en stop motion. Vous avez des décors et des objets du film, ça vous donne une idée de la taille en fait qu'elles font. Notamment, elles sont un peu grandes pour le genre. D'habitude c'est des tout petits objets de quelques centimètres, et là ça fait plusieurs, enfin 10, 20, 30 centimètres parfois, celle du film. Le scénariste du film, donc c'est Wes Anderson et Noah Baumbach, qui est un cinéaste américain indépendant, aujourd'hui reconnu, qui a sorti d'ailleurs son dernier film il y a 2-3 semaines en France, Mistress America, avec son égérie Greta Gerwig. Et comme toujours, la bande-son du film est assez hétéroclite. C'est la première collaboration de Wes Anderson avec Alexandre Desplat, qui est depuis son compositeur attitré. Et c'est aussi une collaboration avec Jarvis Cocker, le chanteur de Pulp. qui a un minuscule rôle dans le film. Donc il y a une marionnette de Jarvis Cocker qui apparaît à un moment avec un banjo. Et il joue une petite chanson. Il en a écrit 4 pour le film, il n'y en a qu'une qui était retenue. Donc la chanson, on va l'écouter tout de suite. Elle a un nom à coucher dehors, c'est Petey's Song, mais c'est genre Jarvis Cocker, Fantastic Mr. Fox, Theme for Petey's Song, un truc comme ça. Elle dure 1 minute 30 et elle est utilisée pour une séquence de cambriolage de poule.
About a handsome little fox, let me sing you folks a yarn. Hey, diddle dee, daddle da, doddle do, doodle dum. Was a splendid little fella, fella wit and grace and charm. Say, zippy zee, zappy za, yappy o, doodle dum. Well, like any little critter needing victuals for his littlings, well, he stole and he cheated and he lied just to survive. Now to colour in the scene, cause the valley lift the yokes, the madmagus, buns, and beans. Now these three crazy jackies had a hero on the run, shot the tail off the cuss with a fox shooting gun. But that stylish little fox was as clever as a whip, took as quick as a gopher, that was half a rack-a-tail. Now those wee farmers sit, where there's a hole was once a hill, singing diddle-dee-daddle-da, doddle-do, doodle-dum. And as far as I can reckon, they're a sitting up there still singing zippy-zee-zappy-za-yappy-yo.
Voilà, une espèce de petite parodie de bluegrass, country américaine un peu redneck au banjo, comme ça. Très rigolote, qui illustre une séquence amusante du film où la famille Renard reprend son passé de cambrioleur, puisque c'est une histoire donc de renard qui avait renoncé à cambrioler, à voler des poules, et qui après 12 ans de vie paisible décide de s'y remettre à l'arrivée d'un membre de la famille. À noter le casting vocal exceptionnel du film, donc on retrouve les habitués, Bill Murray, Owen Wilson, Charles Mann et compagnie, mais il y a aussi Meryl Streep, George Clooney, Antonio Banderas, enfin c'est complètement délirant. Mmh. Voilà. Et du coup, c'est encore moi, c'est ça?
Oui. Comme notre silence et donc, pesant là.
Film suivant en 2011, Moonrise Kingdom, donc ouverture du Festival de Cannes cette année-là. Immense succès critique, c'est peut-être Moonrise Kingdom, à l'époque de sa sortie, c'est peut-être le film qui a eu le plus grand consensus critique pour la carrière de Wes Anderson. Film que je trouve magnifique et bouleversant et génial. Qui raconte les amours enfantines d'un petit garçon un peu différent des autres et d'une petite fille un peu différente des autres sur une île qui s'apprête à être battue par une tempête cataclysmique et qui oppose donc ce petit garçon qui est dans un camp de scout où il ne s'intègre pas du tout et cette petite fille qui ne rêve que de fuir la maison familiale étriquée où les parents sont en plein divorce. Pareil,
c'est l'un de mes préférés.
Ils sont
vraiment très jeunes et au final il faut une sorte de fugue, mais c'est enfin.
Je peux faire le rabat-joie.
Oui, je sais que tu n'aimes pas ce film.
Non, c'est pas que j'aime pas. Non, pour moi c'est un peu de l'auto-parodie quoi. Mais bon,
pas pour moi, mais bon. Et donc voilà, oui, c'est vrai que le style formel du film est c'est du Wes Anderson de chez Wes Anderson pur jus, donc ça peut agacer certains. Et la bande son, puisqu'on parle surtout de bande son aujourd'hui, Alexandre Desplat, Benjamin Britten surtout, hein, puisque il retravaille énormément le guide du jeune, je sais plus comment ça s'appelle en français, The Rough Guide to the Young Music Listener, qui est une espèce de pièce pédagogique de musique composée par Benjamin Britten. Il y a aussi beaucoup de Camille Saint-Saëns dans le film, Le Carnaval des Animaux notamment. J'avais déjà passé dans une émission ultérieurement donc le thème final du film par Desplat qui retravaille Britten instrument par instrument, qui est un chef-d'œuvre absolu, ouais. Qui est le dernier morceau du film, la chanson du générique, c'est vraiment magnifique. Aujourd'hui, j'ai choisi un petit morceau que je dédie à Fabien de la Causerie.
Ah oui, c'est vrai. Ah,
voilà. Donc coucou Fabien, désolé, mais je n'ai
pas.
Fabien,
il est à l'âge là. La meilleure chanteuse française de tous les temps.
Je ne pouvais pas résister à la tentation puisque Wes Anderson a un peu sorti Françoise Hardy de l'oubli dans lequel elle était confinée grâce à ce film. La scène du bisou entre le petit garçon et la petite fille au son d'un vinyle, un 45 tours délicieux, donc de Françoise Hardy. La chanson date de 62. Je crois et s'appelle Le Temps de l'amour.
Mmh.
Françoise Hardy, donc, pour la bande-son de Moonrise Kingdom, une scène assez culte du cinéma de Wes Anderson.
Un beau morceau aussi. Hein.
Une très sympathique chanson. Alors oui, c'est la musique yéyé. Oui, c'est Françoise Hardy qui est un peu une personne pas très fréquentable. Et voilà.
On sait rien,
mais la chanson, elle est cool. Donc voilà.
Bah oui, et puis surtout, chacun... chacun ses goûts, hein. On n'est pas obligé de partager.
C'est bien vrai, ça.
Mais je fais quand même un gros bisou à Fabien.
Qui est à l'AG en ce moment de la radio, donc qui probablement nous écoute.
Qui est en train de nous virer. Ouais, les gars, cette émission là.
Et là, je crois que c'est la phase B, non? Ouais, non, on attend. Non,
il reste un film.
Oui, il reste. Ah,
et pas les moindres.
Ouais.
The Grand Budapest Hotel. Et c'est à moi qu'incombe l'honneur de présenter donc ce film de 2014. Donc déjà 2 ans, hein. Et donc c'est un film, Maxime et Julien sont là pour me censurer si je dis des bêtises, mais qui me semble a été...
N'importe quoi, c'est faux.
A été inspiré par Stefan Zweig, entre autres, enfin oui, par des nouvelles en général. Donc ça parle de la République fictive de Zubrovka, et c'est un film qui est construit avec, enfin qui a plusieurs niveaux, c'est-à-dire que ça commence avec une scène de nos jours où on voit une statue, dans mon souvenir. Ensuite, on remonte en 1968, où on rencontre... Non, d'abord, je crois qu'on remonte dans les années 80.
Il y a 4 niveaux, ouais.
Où on rencontre... Vas-y.
Alors, il y a le présent. Le présent, c'est la première et la dernière scène du film dans un cimetière, où une jeune fille lit le livre dont l'histoire est tirée. Le deuxième niveau, c'est la deuxième et l'avant-dernière scène qui se passe donc dans les années 80, où le personnage de Jude Law est devenu vieux.
Mm-hmm.
Le troisième niveau, c'est quand le personnage de Jude Law est jeune dans les années 70 et qu'il rencontre le personnage donc du Lobby Boy qui lui est devenu vieux. Et le quatrième niveau, en format carré, c'est le principal
c'est là où
du
se passe
film,
toute l'action,
c'est
dans les années 30, ouais.
1933 très précisément, date qui n'est pas choisie au hasard. Oui, bah
oui. Voilà, donc on n'en dira pas plus. Hein, on invite les gens à aller voir si vous l'avez pas vu.
Disons que c'est
la montée du nazisme.
Voilà, librement inspiré de la montée du nazisme dans un univers fictif. Mais
c'est surtout ce qui est surtout intéressant, c'est que tout ça c'est montré du point de vue de Wes Anderson, qui est complètement fantastique, où il y a un peu des méchants, des gentils, mais même les méchants sont quand même un peu.
Ils sont drôles.
Enfin, ils sont ridicules, ouais, un peu.
Ils font quand même très peur dans 2-3 scènes, mais ils sont drôles.
Mais c'est intéressant parce que
c'est complètement imagé, quoi.
Ouais, mais c'est intéressant parce que du coup, c'est vraiment comment justement sa petite ménagerie habituelle est perturbée par l'espèce de tumulte de l'histoire qui arrive comme ça, toute sa destruction. Parce que c'est, comme on l'a dit, ça fait super maniaque, donc du coup, c'est la première fois qu'il fait ça finalement, quoi.
Bah, c'est 1h40 52 100 ans morts de petits chamboulements et de petits événements qui font un effet boule de neige monstrueux dans le film.
C'est qu'elle veut dire boule de neige, il y a une scène de ski.
Oui, ouais, la scène de ski est incroyable.
Ouais, non, je me souviens que j'avais passé un assez bon moment quand même.
Et du coup, pour reprendre l'esthétique de la cellule, en fait, là, c'est un des films où c'est le plus poussé, puisqu'on a les chambres d'hôtel qui sont filmées comme ça, on a les wagons du train, on a les cellules de la prison où c'est absolument flagrant, que c'est vraiment un cinéaste de ça, en fait.
On a vraiment une vraie analyse.
Non, mais t'as une séquence où Ralph Fiennes, en fait, qui est le rôle principal du film, livre la nourriture aux prisonniers et ils passent de cellule en cellule et ils sont vus avec des jeux de surcadrage à travers la petite grille devant la porte et tout. Enfin, c'est vraiment, c'est fabuleux. C'est vraiment un film merveilleux, d'une intelligence remarquable. Les décors sont fous. Tous les Oscars qu'il a gagnés sont mérités puisqu'il a gagné la musique, les décors, les maquillages.
Ouais, ce que j'allais dire, meilleure musique du film.
Et donc la musique de Desplat, tu peux nous en dire deux mots.
Et juste par rapport à la cellule, parce que tu en as parlé tout à l'heure, là, t'en reparlais. Tu sais pourquoi il a cette manie un peu, c'est
son truc à lui, je sais pas, c'est vraiment le cinéaste.
Il voit la vie comme une prison.
On l'associe vraiment toujours, voilà, au mec un peu démiurge qui joue avec ses petites poupées. Parce que c'est surtout il a fait un film d'animation de poupées quand même.
Un petit dandy maniaque qui aime bien les objets, voilà, enfin c'est tout.
C'est un gros fétichiste, vraiment, enfin ça se voit dans ses films. Il y a toujours un rôle des objets qui est assez prépondérant. Dans celui-là, par exemple, c'est les.
Film qui est pas de Wes Anderson, mais Everything is Illuminated, tu vois. Si vous l'avez vu, où il y a justement Elijah Wood qui joue un personnage très très fétichiste aussi, et qui est très intéressant avec de la musique de Gogol Bordello, mais on en parlera une autre fois peut-être. Et donc Desplat, voilà, on en parlait déjà tout à l'heure parce qu'il a collaboré pour Moonrise Kingdom en 2012 et Fantastique Mr. Fox en 2009. Et dans De Grand Budapest Hotel, je lisais qu'il a recruté 35 joueurs de balalaïka.
Oui, il y a l'orchestre national,
folklorique Russie de Moscou.
Voilà, et il y a un orchestre de balalaïka qui joue un morceau à la fin qui est juste
petit. Et d'ailleurs, pendant ce morceau, il y a la vraie grande star du film, c'est quand même le petit bonhomme qui danse pendant le générique de.
Et globalement, ouais, tout le film est quand même très inspiré par la musique russe, quoi. Comme tout à l'heure, on parlait de Darjeeling Limited qui était inspiré de la musique indienne, enfin, qui même reprenait des morceaux de musique indienne.
À quand un film sud-américain?
Ouais, bah ouais. Et donc là, on va s'écouter donc la sixième chanson de la bande originale de The Grand Budapest Hotel qui s'appelle The New Lobby Boy. Thank you. toujours dans la 76e émission du Petit Bazar sur Radio Canu 102.2 et aussi sur internet canu.radio.fr ou radiocanu.org.
Org, oui.
Mais et donc voilà, c'était The New Lobby Boy du film, extrait de la bande originale du film The Grand Budapest Hotel,
dont les maquettes sont à l'exposition de sur Wes Anderson au musée des miniatures. Il y a l'hôtel. Il y a l'hôtel.
Et donc maintenant,
les gens qui aiment ce film comprendront.
On sort un film de Lynch. Il y a l'hôtel.
Ce n'est pas un nom de code. Et donc Maxime va conclure cette émission.
Oh, quel honneur. Bah oui, une petite phase B aujourd'hui. Donc on l'a rapidement évoqué tout à l'heure. Wes Anderson a aussi réalisé des courts-métrages. Donc une première version de Bottle Rocket en 94. Et surtout un court-métrage qui est considéré de manière assez ironique pour moi comme un de ses tout meilleurs films par la critique spécialisée, avant Darjeeling Limited, donc en 2007. Le court-métrage est conçu comme un prologue indépendant au film. Il s'appelle Hôtel Chevalier et présente donc Nathalie Portman et Jason Schwartzman dans une chambre d'hôtel, l'hôtel Raphaël à Paris. Dans le film, il s'appelle Hôtel Chevalier, mais le lieu où ça a été tourné, c'est l'hôtel Raphaël. Il dure aussi environ 13 minutes, je crois, et donc c'est une rencontre et une séparation amoureuse dans une chambre d'hôtel parisien qui lance en fait le film Darjeeling Limited. Il était présenté à Venise, donc avec le film en avant-première mondiale, et en France en tout cas il est sorti dans les salles avec le court-métrage avant le film. En tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vu. Le film a été un succès critique phénoménal. Enfin, les critiques anglais et américains ont préféré le court-métrage au long-métrage.
Ah ouais.
En général, ce que je trouve assez étonnant.
C'est marrant, je crois que j'ai vu que le long-métrage.
Beaucoup de critiques américains
ça
en fait
me donne envie de voir le court-métrage aussi.
Mais moi je le trouve pas si exceptionnel que ça. Il est sympa, ah mais ouais. En fait beaucoup de critiques américains considèrent que le style justement de vignettes, de machin de Wes Anderson ne tient pas le rythme d'un long-métrage en général, que ça finit par être agaçant ou épuisant. Et que là, il y a tout son cinéma qui est condensé en une dizaine de minutes, et donc ils ont tous trouvé ça merveilleux. Et il y a une scène de nu de Nathalie Portman qui a énormément fait parler.
Ah, alors donc du coup cet après-midi, on va rattraper nos lacunes cinématographiques. Alors,
du coup, je
de culture. Quand
je,
même.
Je ne précise pas la subtilité de cette scène parce qu'il y a un détail en fait qui a fait particulièrement couler de l'angle dans la scène de nu. Donc si vous regardez le film, vous comprendrez.
C'est un peu la princesse Amidala. Quoi.
C'est une scène de nu un peu particulière, et donc le film est rythmé par une petite chanson. Qui est le seul morceau utilisé dans le court-métrage et qui revient ensuite en leitmotiv dans Darjeeling Limited, qu'on va s'écouter tout de suite.
Again. city, a very desirable age. Your body is firm and inviting, but you live on a glittering stage. Yes, you do. Your name is heard in high places. You know the Aga Khan sent you a racehorse for Christmas. Keep it just for fun, for a laugh. They say that when you get married, it'll be to a millionaire. I don't realize where you came from, girl. I'm sure don't really care or give a damn. But where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Tell me the thoughts that surround you. Want to look inside your head? Yes, I do. I remember the back streets of Naples. Children begging in rags. You're both touched with a burning ambition. Shake up our lowly born rags. So we tried. Look into my face, Mary Claire. I remember just who you are. Go and forget me forever. I know.
Journée des couacs et des surprises jusqu'au bout, au moment où Julien se voutre avec son casque en face de moi.
C'était bon, quand même beau, genre ça aurait été voulu que...
Mais c'était pas pour ça que je disais ça, c'est parce qu'on a donc écouté Where Do You Go To My Lovely, donc qui est bien la chanson de Hôtel Chevalier, mais on n'a pas écouté la bonne version.
Enfin, puisque, la bonne version, c'était pas la version qui est dans le film.
La version du film, donc c'est Peter Starr. Bah oui, mais c'est pas la bonne version. Donc laisse-moi finir ma phrase, bordel. Donc
pas mauvais.
Dans le film, c'est Peter Sarstedt qui chante. Donc c'est la version originale de la chanson sortie en 69, 6 semaines numéro 1 des charts en Angleterre, qui a eu un prix récompensant la meilleure chanson de l'année ex aequo avec Space Oddity de David Bowie. Donc ce qui n'est quand même pas rien. Et puis là, donc, c'est une reprise par le Dave Cusworth Group, apparemment, que je ne connais pas. Et maintenant, c'est Nico qui fait tomber son micro. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui?
C'est samedi 13, non?
Phase B parce que musique de court-métrage, et phase B parce que reprise de la chanson qui est dans le court-métrage au lieu de la version originale. C'était pas prévu, mais bon, pourquoi pas?
Et bah,
après, c'est vrai que ça faisait un peu Rock FM années 80. Oui. Je vous le conseille.
Ça conclut donc cette émission spéciale sur les films de Wes Anderson. Voilà, donc, avant de conclure cette 76e émission du Petit Bazar, on vous rappelle que vous pouvez nous envoyer un message à lepetitbazar@hotmail.com et vous pouvez réécouter cette émission et toutes nos émissions précédentes sur blogs.radiocanu.org/lepetitbazar. Comme ça, vous pourrez entendre à nouveau les bruits de Maxime qui mange des Tic Tac ou des chevals hongrois qui mangent des crackers dans l'émission qu'on leur avait dédiée il y a quelques mois. Et donc, pour finir, c'est notre produit local, donc un groupe de la région Rhône-Alpes, toujours. Et c'est un groupe que j'aime beaucoup, que j'ai découvert dans l'émission Musique, etc., qui est aussi sur Radio Canu tous les dimanches.
En fait, tu lui piques tous ses locaux maintenant.
Et ouais, c'est, quand je suis, et c'est soit quand je suis en manque d'inspiration, soit quand il me fait vraiment découvrir des groupes excellents et que bah,
Il faut dire qu'il a la pointe.
Je l'apprécie. Ouais. Et puis toutes les semaines, donc de dimanche, toutes les dimanches, pardon, de 11h.
De dimanche à dimanche.
Bon, c'est pas facile. Donc tous les dimanches de 11h à midi, bah, Guillaume vous fait découvrir des groupes de Lyon en particulier sur son émission Musique, etc. Donc bah, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et donc le groupe que je vais vous faire écouter là, c'était ses invités du 13 décembre 2015. Donc ça s'appelle Zoé Bactabas et c'est de la chanson française très jolie et pourtant avec une formation assez typique, j'ai envie de dire, percussion, guitare, basse et chant. Mais bah au final c'est peut-être avec les recettes les plus simples qu'on fait les choses les meilleures.
Dans les vieux pots qu'on fait les.
Julien est toujours en forme même depuis la semaine dernière.
Je veux pas dire mais il m'a enlevé les mots de la bouche quand même parce que là c'était vraiment tentant.
Même si la peinture m'est montée un peu à la tête.
On est shooté à la peinture.
Oui parce que on est en train de repeindre la devant. Enfin nous. Comme encore, nous disait tout à l'heure.
Oui d'ailleurs remerciements aux gens de la radio qui étaient pendant l'émission qui nous ont aidés à réparer les platines
en, plus,
vinyle,
en
même temps qu'ils
emmerdés,
repeignaient la pièce d'à côté quoi.
Et donc on va conclure cette émission avec le produit local. Ça s'appelle Zoé Bactabas et c'est la chanson excellente qui s'appelle Dragon. Et puis, ce sera les bandes continues qui vont vous accompagner jusqu'à 16h, je pense.
Le dragon, c'est plus chaud.
Et je crois que c'est vraiment l'heure de quitter l'antenne parce que mes deux camarades ici présents sont en train de péter un câble.
Allez,
si toi aussi tu veux nous envoyer ton imitation de dragon.
Dragon
lepetitbazar@hotmail.com.
Du coup, si t'es un dragon, t'es un peu obligé d'imiter le feu finalement. Enfin, c'est un peu la tribu principale
ouais,
du dragon.
C'est chaud.
Voilà. Bon, et ben sur ce, on vous dit à la semaine prochaine et c'est Zoé Bactabas avec le dragon qui conclut ça.
La cinquantaine bien avancée, tantôt blonde, tantôt noire corbeautée. Maquillée à la truelle, le monde ne peut tourner sans elle. Je m'asperge à l'eau des toilettes. Il est unique ce parfum de mouflette. Je confonds très souvent des odorisants et des dictature du dragon, je caresse dans le sang des écailles. Pour mieux semer la pagaille, je prône la désinformation. C'est la dictature du dragon, je guette vos plus petites failles. La bonne humeur, je la cisaille et je vous prends pour des cons. Un jour en rosfuchsia ou en chemise en jean, je pense à mon 38 en temps qui s'est transformé avec les ans en un bon 46 dégoulinant. Mon leggings noir se perd dans les plis de ma taille plus que bien fournie. Mes lèvres grossièrement rosées ressemblent à deux chambres à air crevées. Dictature du dragon, je caresse dans le sang des écailles. Pour mieux semer la pagaille, je prône la désinformation. C'est la dictature du dragon, je guette vos plus petites failles. La bonne humeur, je la cisaille.
Et je vous prends pour des cons.